Décryptage, Marie Cazadebé.
Après avoir incarné l'extrême droite américaine, conseiller Donald Trump pendant sa campagne à la Maison Blanche, Steve Bannon rêve de fédérer les populismes du monde entier. Et au sein de l'Union Européenne, il a trouvé des interlocuteurs. Tout ce qui se passe ici est tout ce dont j'ai rêvé, dit-il.
Maintenant, il y a une nouvelle donne. Vous avez Salvini, Le Pen, Farage, Orban. Une Europe de nations, des états-nations individuelles qui sont comptables devant leurs citoyens. C'est ça. Tout se joue autour de cela. Et je serais absolument ravi, effectivement, si les partis souverainistes l'emportaient.
Mais c'est à Paris qu'il a posé ses valises pour suivre les élections européennes qui vont s'étaler de mercredi à dimanche, car pour lui, c'est en France que le scrutin est le plus important. Le Premier ministre français et d'autres responsables politiques crient à l'ingérence étrangère. Alors pourquoi Steve Bannon fait-il si peur? Quel intérêt a-t-il à soutenir les mouvements populistes européens? C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Laurence Nardon.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous êtes l'auteur de Les États-Unis de Trump en 100 questions aux éditions Taillandier. Il y a d'ailleurs une question consacrée à Steve Bannon. Steve Bannon se tourne vers l'Europe en 2018, quelques mois après avoir quitté la Maison Blanche. Alors est-ce qu'il avait besoin d'un nouveau terrain de jeu maintenant que la présidence américaine ne lui est plus accessible?
Oui, il devait certainement s'ennuyer parce qu'il était brouillé avec Donald Trump, donc il n'avait plus accès, comme vous dites, à la Maison Blanche. Et puis, par ailleurs, finalement, son programme de campagne de 2016 était à l'œuvre, puisque Trump s'occupe de faire exactement tout ce qu'il a dit pendant la campagne. Et d'une certaine manière, les idées de Bannon étaient en train d'être appliquées, sont aujourd'hui en train d'être appliquées par la Maison Blanche de Trump. Donc peut-être que Bannon s'ennuyait et avait besoin, comme vous dites, d'un nouveau terrain de jeu qu'il a trouvé en Europe.
Il est resté que 7 mois comme conseiller de Donald Trump après l'élection. Vous dites aujourd'hui que finalement il a eu le temps de semer des petites graines qui sont en train de pousser. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la politique américaine de Donald Trump qui sent vraiment l'influence Steve Bannon?
Alors, sans hésiter, je vous réponds, la politique économique et commerciale de Trump. En fait, Steve Bannon, c'est un nationaliste, mais il parle pas vraiment de questions d'identité ou d'islam. Il parle pas non plus du tout de questions de morale et de religion. C'est pas un conservateur à l'américaine. C'est vraiment un nationaliste. Et sa bête noire à lui, c'est la mondialisation. C'est le rôle de la Chine, notamment, qui est vraiment son ennemi. Toute cette ouverture des frontières au plan économique et commercial qui a mis à bas dans son esprit, et d'ailleurs statistiquement c'est assez vrai, les classes moyennes peu diplômées aux États-Unis et aussi dans le reste des pays développés. Et ce qu'il a proposé pendant toute la campagne de 2016 de Donald Trump, c'était de fermer les frontières au commerce international, de renégocier les traités de libre-échange qui allaient beaucoup trop loin pour lui, et aussi de cadrer la Chine qui non seulement profite des règles de libre-échange, mais triche avec les règles de libre-échange, puisque lorsque la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001, les pays développés lui ont accordé des règles plus souples, notamment en termes de respect de la propriété intellectuelle, de travail des enfants, de respect de l'environnement, etc., parce que c'est un pays en développement, donc il fallait l'aider un petit peu, qu'elle ait des aménagements. On espérait évidemment que la Chine allait rentrer dans le rang très rapidement, ce qu'elle n'a pas fait et ce que manifestement elle n'a pas du tout l'intention de faire.
Donc on voit effectivement aujourd'hui, comme vous dites, les traces de cette politique. Vous dites que finalement Steve Bannon inclut assez peu de valeurs morales dans son discours. La Chine est quand même tenue comme une responsable d'une menace sur les valeurs occidentales. Il en parle notamment à propos de l'Europe. C'est quelque chose qui est important aussi dans son discours, la protection des valeurs peut-être traditionnelles de l'Occident.
Oui, alors quand je disais que c'est un nationaliste tout à l'heure, c'est un nationaliste américain, évidemment, mais du coup, il voit un lien culturel très important avec les vieilles nations européennes, puisque historiquement, il y a un lien, si vous voulez, population démographique entre l'Europe et les États-Unis, enfin ou l'Amérique du Nord plus largement. Et du coup, il veut, et c'est l'une des raisons de sa présence en Europe aujourd'hui, protéger ce qu'il appelle la culture, ou la culture même démographique, si vous voulez, de l'Europe. Et c'est pour ça, je pense que vous faites allusion aux propos qui sont dans la très intéressante interview qu'il y a eu dans le JDD le week-end dernier, où il parle évidemment, effectivement, de la menace chinoise, mais aussi de la menace islamique contre l'Europe. Oui, il est totalement dans cette idée-là.
Ça veut dire qu'il n'a pas forcément adapté son discours aux nationalistes ou aux populations européennes. C'est un discours qu'il tenait déjà, parce que c'est vrai que la menace des valeurs occidentales, on la retrouve évidemment dans le discours de Marine Le Pen ou de Viktor Orban. Est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà et qu'il a déjà prôné, par exemple pour soutenir Donald Trump?
Oui, bien sûr. Donc il est pour la défense de cette culture et de cette histoire européenne. Et donc il y a ça, et puis il y a une seconde raison pour sa présence en Europe, d'un point de vue idéologique, c'est que en tant que nationaliste, il est également complètement contre l'idée de construction européenne. Et donc s'il est en Europe aujourd'hui, donc c'est d'une part parce qu'il a eu plus rien à faire peut-être aux États-Unis, d'autre part parce qu'il veut défendre la culture européenne contre toutes ces menaces venues du monde extérieur, la Chine, le monde musulman, etc. Mais aussi l'idée et le projet de nuire ou d'affaiblir le projet de construction européenne. Parce que pour lui, en tant que nationaliste, la construction européenne, c'est mal. Mmh. Il faut vraiment que les pays recouvrent leur souveraineté, leur indépendance, leur autonomie. Et c'est un petit peu la limite de son projet en Europe, parce que finalement...
On y viendra, effectivement, sur ce projet, puisque je le disais en introduction, hein, c'est vraiment fédérer les populismes européens. On verra que la tâche est difficile et qu'elle est presque paradoxale. Mais pour revenir à son expérience à la Maison Blanche, on le disait, 7 mois après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il est limogé. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes pour qu'il ait quitté si vite? Eh bien, l'homme finalement qu'il a amené à la Maison Blanche, on dit souvent que c'est le stratège qui a amené Donald Trump à la présidence.
On disait que c'était l'homme qui chuchoté à l'oreille de Donald Trump. Et c'est vrai, parce qu'en fait, il est quand même l'un des plus construits dans les conseillers populistes autour de Trump, l'un des plus construits intellectuellement, je veux dire. Et donc, c'est sans doute l'un des conseillers les plus solides et les plus précieux de Trump en 2016, parce que Bannon arrive pendant la campagne de 2016, en août 2016, et puis ensuite, il prend ce poste pendant 7 mois à la Maison Blanche. Donc, les deux hommes se sont quittés à l'été 2017 parce que... plusieurs raisons. Je pense que d'abord, Steve Bannon a une forte personnalité, donc c'était pas forcément facile pour lui de s'insérer dans un groupe sérieux à la Maison Blanche. Bon, même si la Maison Blanche de Trump est à mon avis un endroit assez particulier. Mmh. Deuxièmement, souvenez-vous, il y a eu un drame à l'été 2017 à Charlottesville aux États-Unis, avec la mort d'une militante antiraciste dans une manifestation où il y avait les blancs suprémacistes américains qui s'étaient battus contre des antiracistes, et l'un des militants suprémacistes blancs a foncé avec sa voiture dans la foule et a tué une personne. Et à la suite de ça, Trump a dit qu'il avait été désolé parce qu'il y avait des gens méchants de tous les côtés, ce qui était une déclaration vraiment très très grave d'un point de vue politique. Et Trump a été accusé d'avoir écouté Bannon lorsqu'il a tenu ce propos. Donc c'était un petit peu difficile de conserver Bannon à la Maison Blanche. Et puis aussi, il y a beaucoup de luttes de factions autour de Trump à la Maison Blanche, et il est absolument avéré que la fille de Trump, Ivanka, et son gendre, Jared Kushner, n'aimaient pas du tout Bannon. En fait, ils se détestaient. Il y avait une lutte de pouvoir entre ces gens, et donc ils ont réussi à le mettre à la porte finalement.
Quand on voit l'importance effectivement de la fille et du gendre, on comprend que c'était pas viable. Pour revenir maintenant aux méthodes de la campagne de Donald Trump, Steve Bannon a été le rédacteur en chef d'un site d'information d'extrême droite, Breitbart News. Il a aussi été membre du conseil d'administration de Cambridge Analytica, cette société britannique dont on a entendu parler, spécialiste d'analyse de données numériques, citée dans plusieurs scandales, notamment le vol de données à grande échelle. Est-ce que, comment concrètement Steve Bannon s'est servi justement de ces outils dans la campagne de Donald Trump, et comment aujourd'hui il pourrait, ou en tout cas il voudrait, les mettre au service des leaders populistes européens?
Alors Cambridge Analytica, je crois qu'on n'a pas fini de vraiment s'ébahir de la pratique de cette société, de cette entreprise britannique en 2016. Ils ont effectivement, comme vous le disiez, volé tout un tas de données personnelles, mais on parle de dizaines de de millions de profils Facebook de citoyens américains. Je crois que c'est 80 millions, en fait, en vrai. Mmh. 80 millions de profils Facebook d'électeurs américains ont été volés, c'est-à-dire vraiment sans la permission des personnes, pour être utilisés pour faire du marketing politique à très très grande échelle. Parce qu'avec les profils Facebook et des algorithmes très complexes, vous pouvez ensuite personnaliser des messages politiques de manière extrêmement efficace psychologiquement pour les gens, pour les inciter à ne pas voter Hillary Clinton, mais à voter Donald Trump. Alors, évidemment, c'est très difficile de mesurer l'impact réel que ça a eu sur le bulletin de vote des personnes, mais enfin, on peut penser que ça a eu un impact. On sait que des tentatives similaires ont été faites en France en 2017 et en Allemagne aussi, dans l'élection de novembre 2017, je crois bien. Alors, est-ce que Bannon a été en mesure, dans les semaines qui viennent de s'écouler, de faire la même chose en Europe ? Je ne suis pas sûre, parce que maintenant les gens sont au courant, enfin les gouvernements sont au courant, et les GAFA, enfin c'est-à-dire toutes ces grandes entreprises de la Silicon Valley qui dirigent Facebook, Twitter, etc., ont mis en place des procédés pour protéger les données personnelles de leurs utilisateurs.
Tout à fait. En revanche, l'utilisation d'un site internet qu'on a souvent accusé de propager des fake news, ça faisait vraiment partie de la stratégie Bannon.
Ah oui, bah les fake news, l'agitation, c'était un peu de l'agit-prop sur internet qu'il a fait.
Depuis 2018, alors Steve Bannon donc se tourne vers l'Europe, ses leaders populistes. Il dit avoir vouloir partager une expérience et des moyens avec eux. Laurence Nardot, un mot sur ses moyens financiers. On le dit multimillionnaire, ça aide, j'imagine, à être influent. On y reviendra. Est-ce qu'on connaît l'origine et l'étendue de sa fortune ? Est-ce que ça joue justement aussi sur ses ambitions en Europe ?
Bah, il a fait fortune parce qu'il est passé par Goldman Sachs. Ensuite, il a été producteur à Hollywood. Donc bon, bah voilà. Il est riche, c'est pas forcément à lui reprocher. Ceci dit, il a pas vraiment pu utiliser cet argent dans les élections européennes, puisque la loi sur le financement des campagnes en Europe impose que, enfin en tout cas, pour ce que je sais de la France, les personnes privées peuvent donner jusqu'à 7 500 € à un candidat, mais les entreprises, les personnes morales ne peuvent pas contribuer aux campagnes. Donc je crois pas qu'il ait pu utiliser son argent, en tout cas d'une manière légale, voilà, pour soutenir le Rassemblement National en France, par exemple.
Selon The Guardian, il avait prévu de dépenser 5 à 15 millions de dollars dans la campagne pour les européennes. Donc, c'était avant de connaître les législations européennes. Sur les 13 partis qu'il voulait soutenir, 9 n'ont pas le droit de toucher de l'argent venant de l'étranger. L'intérêt maintenant des leaders populistes, il a été accueilli à bras ouverts par l'Italien Salvini, par le Hongrois Orban, on viendra tout à l'heure à sa relation avec Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner selon vous ? Est-ce que c'est cette expertise, on disait, son expérience de la campagne américaine, ses qualités de stratège, ou bien son argent ? Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que les leaders populistes auraient intérêt à entretenir des relations avec lui ?
Alors, bon, je suis pas spécialiste des extrêmes droites européennes, mais enfin, ce que je peux dire sur Bannon, c'est qu'il est arrivé très sûr de lui en Europe, en se disant, voilà, je vais leur expliquer comment ça se passe, je vais les aider, ils seront très contents. Et force est de constater qu'a priori, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Je pense que la raison, c'est que les partis d'extrême droite en Europe sont suffisamment puissants et avancés aujourd'hui pour ne pas avoir à attendre les conseils d'un Steve Bannon. Que peut-il leur apporter ? De l'argent, donc, on a vu que non, en fait, du fait des législations sur le financement des campagnes en Europe. Un accès à l'administration de Trump, non, puisque même si les idées de Bannon sont à l'œuvre chez Trump, en fait, les deux hommes sont brouillés jusqu'à aujourd'hui. Sa tactique, ses méthodes, ses idées, ses stratégies, finalement, je crois que les partis européens ont tout ce qu'il leur faut chez eux et n'ont pas vraiment eu besoin de Bannon. Alors, ce qui aurait pu se passer, c'est s'il avait eu, je ne sais pas s'il a un charisme, une intelligence, une manière de faire se rencontrer les gens entre partis qui auraient pu rendre service, manifestement non, puisque On voit bien que ça n'a pas été très loin.
En tout cas, Matteo Salvini et Viktor Orban ne rechignent pas donc à le recevoir, à poser pour la photo. Ça semble servir en tout cas leur communication. Les relations avec le Rassemblement National en France sont plus compliquées. Écoutez Marine Le Pen chez nos confrères de France Info à propos de la venue de Steve Bannon cette semaine en France.
Il n'a aucun rôle dans la campagne. Il est manifestement à Paris. Je ne le savais même pas, moi, qu'il y était d'ailleurs.
Vous l'avez découvert en lisant la presse.
Exactement. Dès qu'il met un pied à Paris, tous les journaux et les médias français se précipitent pour avoir interview. Par conséquent, si vous voulez, ça n'est pas nous qui invitons Steve Bannon dans notre campagne. C'est vous, les journalistes, qui invitez Steve Bannon dans la campagne des européennes.
Laurence Nardon, on entend Marine Le Pen mettre à distance justement ses relations avec Steve Bannon. On sent quand même que c'est des relations qui peuvent être embarrassantes pour certains leaders populistes, en tout cas pour Marine Le Pen. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça peut être embarrassant d'être proche de Steve Bannon?
Bon, si ça se trouve, ils ont des relations extrêmement suivies et on n'en sait rien. Mais d'après ce qu'elle dit... elle n'a pas besoin de Steve Bannon pour mener sa campagne. Et puis, je pense que presque ontologiquement, qu'est-ce qu'un parti nationaliste européen va gagner à s'afficher avec un Américain ? C'est-à-dire, si les gens sont nationalistes, par définition, ils vont pas avoir envie d'afficher le fait qu'un étranger les soutient.
Et c'est justement ce que leur reproche le Premier ministre français et le parti présidentiel, LREM, donc, qui ont réagi à la visite en France de Steve Bannon. Édouard Philippe a dénoncé la tentative de Bannon de diviser l'Europe pour mieux se servir les intérêts des États-Unis. On parle d'ingérence, d'influence. Est-ce que vous pensez que cette peur est feinte ou est-ce que vraiment on peut craindre l'influence de Steve Bannon sur le Rassemblement National ou plus largement sur les populismes européens? Ou votre conclusion c'est que, comme vous dites, ils n'ont pas besoin de lui, il arrive trop tard?
Oui, je crois qu'il arrive trop tard. Je pense que son ingérence dans la politique européenne, donc il la souhaitait, lui, Bannon, mais on voit que ça s'est pas tellement bien produit suivant ses espoirs. Je pense que son ingérence, elle avait pas forcément pour objectif de diviser les Européens pour bénéficier aux États-Unis. Je pense que ça part d'une vraie conviction nationaliste et suprémaciste blanche qu'aurait Bannon. Il voulait rétablir les nationalismes européens. Parce que c'est ce à quoi il croit, je crois, je pense.
Il espère 35% de sièges aux populistes dans le prochain Parlement européen, au lieu de 10% environ dans le Parlement sortant. On verra bien dimanche les résultats. Est-ce que vous pensez qu'il aura déjà réussi à peser sur ce scrutin ou pas du tout?
Je crois pas du tout, en fait. Je crois que les partis d'extrême droite européens se débrouillent très bien tout seuls.
Alors, est-ce qu'il est attendu maintenant aux États-Unis? Si après, au lendemain des élections, il se rend compte que finalement son ambition de fédérer les populismes est vain ou peut-être vient trop tard, est-ce qu'il a encore quelque chose à faire aux États-Unis? Est-ce qu'on l'attend?
Alors, question passionnante sur laquelle je suis beaucoup plus à l'aise, c'est donc le démarrage de la campagne des présidentielles américaines de 2020. Et là-dessus, Bannon aimerait certainement jouer un rôle. Encore faut-il qu'il se réconcilie avec le président Trump. Il y a quelque chose qui va beaucoup avantager la ligne Bannon dans la campagne de Trump pour 2020, c'est que l'économie va très bien, que les bas salaires commence à remonter aux États-Unis et que du coup la ligne de Bannon qui était fermons les frontières et faisons revenir les usines pour les classes ouvrières américaines afin que les petits blancs de la Rust Belt retrouvent du travail, retrouvent une prospérité, etc. Bah, tout cela semble se produire et donc ça donne un coup de pouce formidable à la ligne populiste porté par Bannon et porté par Trump aujourd'hui.
Et forcément, il soutiendrait Trump s'il n'y a pas un autre candidat qui pourrait bénéficier justement de l'influence de Steve Bannon.
Ben, curieusement, vu tout ce qu'il raconte sur l'économie et le fait qu'il faut en finir avec le libre-échange, Trump porte cette pensée-là dans la campagne, mais à l'extrême-gauche, enfin... À la gauche un peu radicale aux États-Unis, Bernie Sanders porte les mêmes idées.
Merci beaucoup, Laurence Nardon. Je rappelle le nom de l'intitulé de votre ouvrage, Les États-Unis de Trump en 100 questions aux éditions Taillandier. Et merci à Éléonore Krenik, Simon Carteret, Laurence Arniguet et Steven Hesley qui m'ont aidé à préparer cette émission.